Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around Black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like wary of the police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
And the way we're going to do it is the App Store.
Ce qui fait la force de l'App Store, c'est qu'ils ont créé des équipes dédiées qui vont suivre et un peu chouchouter, pouponner tous leurs développeurs.
Il suffit pas juste de rentrer sur l'App Store, c'est comme dans une boîte de nuit, il faut aussi bien se tenir à l'intérieur.
Salut, c'est Xavier Yvon. Cet été, nous vous proposons une sélection des meilleurs épisodes de La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près.
Pour écouter ce podcast, vous avez probablement pris votre smartphone ou votre tablette, vous avez appuyé du doigt sur l'écran pour ouvrir une plateforme d'écoute, bref, vous avez utilisé une app, une appli, une application, vous dites comme vous voulez, avant on disait logiciel, ces programmes qui vous permettent de faire des tas de choses, regarder une série, gérer votre agenda, lire des infos ou encore jouer à assembler des bonbons, certains se reconnaîtront, mais derrière ces petites icônes carrées que vous effleurez en permanence se cache tout un monde, un écosystème, des millions de personnes, une armée de l'ombre qui nourrit les catalogues d'applications. Le plus connu, qui est aussi le pionnier, c'est l'App Store et il est devenu l'arme fatale d'Apple dans la guerre de la tech mondiale. Quand on parle de tech à l'Express, on fait notamment appel à Raphaël Bloch du service économie. Alors pour ça, je vais ouvrir mon app de messagerie. Je lui écris et voilà, c'est envoyé. Entre Raphaël.
Salut Xavier.
Salut Raphaël, installe-toi. Pour commencer, on va remonter dans le temps, Raphaël, pas beaucoup, en 2007.
These are not three separate devices. This is one device. And we are calling it iPhone.
Steve Jobs, le fondateur d'Apple, qui annonce le lancement du tout premier iPhone. Oui, c'était il y a seulement 14 ans, mais notre vie à tous depuis a changé avec les smartphones et surtout avec ces fameuses applications, Raphaël.
Et c'est ça, finalement, le vrai coup de génie d'Apple. C'est pas tellement l'iPhone, c'est plus ce qu'il y a à l'intérieur, c'est-à-dire l'App Store qui a été lancé un an après. Aujourd'hui, il y a 1,8 million d'applications dans ce magasin virtuel.
L'App Store, c'était le premier, Raphaël, et c'est devenu presque un nom commun maintenant.
Exactement, c'est-à-dire qu'on parle de l'App Store comme on parlerait d'autres marques qui sont très connues. Par exemple, Kleenex, Frigidaire. C'est devenu un nom générique qu'on utilise pour en fait qualifier un magasin virtuel.
Mais même chez les concurrents d'Apple.
En fait, justement, c'est le problème qu'ils rencontrent, c'est que, par exemple, le principal concurrent d'Apple, à savoir Google, a pas mal de difficultés. Ils ont baptisé également App Store, en fait, Google Play Store, c'est leur magasin virtuel. Mais c'est vrai que les gens ont pris l'habitude, quand ils parlent des applications et des magasins en ligne, de parler d'App Store, alors que, en fait, c'est le magasin en ligne d'Apple.
Alors, celui d'Apple, l'App Store, donc, il marche comment? Qui fabrique toutes ces applications?
C'est tout bête. Apple a lancé son App Store, ils ont mis en ligne une grande plateforme qui permet à n'importe qui, ça peut être toi, ça peut être moi, qui va coder une application et qui va en fait pouvoir la lancer directement sur cette plateforme. On est dans une forme, alors ils n'aiment pas qu'on parle de ça, mais de sous-traitance. Ce sont des développeurs à travers le monde, il y en a plusieurs millions. En France, on en compte quelques centaines de milliers. Qui créent des projets, alors pas forcément dans leur garage comme Steve Jobs pour créer Apple, mais voilà, ils développent chez eux, dans des entreprises. Et puis, eh bien, ils soumettent ces projets qui sont après lancés sur l'App Store et qui sont disponibles sur tous les iPhones de la planète.
Il faut soumettre. C'est important parce qu'il ne suffit pas juste de créer une app pour être accepté sur l'App Store. Il faut respecter certaines règles. Et on a demandé au patron d'App Store Europe, Daniel Matray, de nous les rappeler.
Et dès le départ, on a instigué des règles de conduite pour faire en sorte que ça soit un environnement sûr et sécurisé et facile pour nos clients. Donc, pas de virus, pas de contenu frauduleux, pas de contenu à caractère illégal ou illicite ou illégitime, type pornographie, violence, etc., etc. Donc, on a mis ça en place avec un processus de validation. Donc, on regarde toutes les applications et toutes les mises à jour qui sont publiées sur l'App Store pour faire en sorte que nos clients puissent avoir la meilleure expérience. Et ça, c'est énormément de travail et c'est ce qui nous différencie d'autres plateformes ou d'Internet.
Raphaël, c'est donc Daniel Matray et ses équipes qui valident ou non une app sur le catalogue Apple et qui vérifient qu'elle respecte bien ses règles.
Exactement, c'est un peu comme dans une boîte de nuit. Enfin voilà, quand on a envie de sortir le samedi soir, eh bien, il y a une tenue correcte exigée. On ne peut pas rentrer n'importe comment.
Ça va pas être possible.
Et donc, Apple a mis en place des règles. Ils veillent à ce que ces règles soient respectées. Ils ont mis des sortes de videurs, enfin des équipes qui vont donc contrôler toutes les applications. Et pour te donner une idée, aujourd'hui, donc, on a 1,8 million d'applications qui sont disponibles. Ils en ont déjà retiré 1 million depuis la création de l'App Store. Donc, ils sont très sélectifs pour des raisons différentes. Hein. De temps en temps, c'est technique. Donc, ils peuvent retirer une application parce qu'elle ne respecte pas des critères en termes de taille, de visibilité. Ça peut être la taille des caractères, la compréhension qu'on a de l'application. Mais ça peut être aussi des applications qui ne correspondent pas aux exigences d'Apple en termes de services.
Quand tu dis « ils ont sorti des applications », ça veut dire qu'il ne suffit pas juste de rentrer sur l'App Store. C'est comme dans une boîte de nuit, il faut aussi bien se tenir à l'intérieur.
Exactement, c'est-à-dire que si vous avez un comportement qui n'est pas adéquat aux règles de l'établissement…
Dis donc, toi, t'as passé la corde ? Il faut jamais passer la corde.
Non, mais mes amis sont entrés.
Eh bien, vous avez ces fameux videurs, donc ces responsables de l'App Store, qui viennent vous chercher et qui vous explique tout bêtement que vous n'avez plus accès, il retire votre application de l'App Store, ce qui est aussi un problème pour pas mal justement de développeurs parce que pour eux, c'est une perte de business, c'est-à-dire que leur activité s'arrête du jour au lendemain au moins sur l'App Store, et ils doivent finalement aller sur d'autres magasins en ligne, notamment celui de Google pour continuer d'avoir une activité.
À Apple, on est donc très tatillon. Et ça, c'est ce que t'ont raconté les développeurs français que tu as rencontrés pour ton enquête pour l'Express.
Ouais, exactement. Quand on leur pose la question, à chaque fois, ce qui revient, c'est que c'est vraiment l'App Store qui est le plus exigeant. Je pense notamment à une application qu'on a tous vue et pour la plupart d'entre nous utilisée, à savoir VitmaDose, hein, pour trouver les centres où se faire vacciner le plus rapidement possible. Elle a été développée par Guillaume Rosier, un ingénieur qui récemment a eu la Légion d'honneur. Et ce que Guillaume Rosier a créé avec sa petite équipe, c'est donc VitmaDose. Et ils ont eu pas mal de difficultés parce que les critères en fait dans l'App Store les empêchaient, par exemple, de mettre Covid dans le titre parce que Covid ne pouvait être utilisé que pour les applications étatiques, les applications publiques contrôlées par les États. Donc, ils ont dû prendre VitmaDose. Ça tombait bien parce que c'est ce qu'ils avaient en tête, mais ça concerne aussi le logo. Alors, ils ont pu mettre, c'est ce qu'il m'a raconté, une petite aiguille sur le logo. Par contre, tout ce qui est communication et publicité pour leur application dans l'écosystème Apple, là, ils n'avaient pas le droit d'utiliser l'aiguille parce que c'est contraire, finalement, aux standards d'Apple.
Et pourtant, c'est une application utile, une vraie application de service.
Exactement. Mais c'est vrai qu'Apple le justifie en disant, on a des critères qui sont stricts, ils s'appliquent à tout le monde. Et c'est vrai que sur ce type de sujet, comme le Covid, ils ont voulu en fait privilégier les applications publiques en leur réservant tout un tas de critères.
Ça sert à quoi d'avoir ces règles, cette charte ?
C'est tout bêtement un gage de qualité et de confiance pour les utilisateurs. Toi comme moi, quand on utilise notre iPhone, si on en a un, comme tous les utilisateurs, on a aussi envie d'utiliser des applications qui sont sûres, sécurisées. On n'a pas envie qu'il y ait des malfaçons, on n'a pas envie qu'il y ait des virus. On a envie que ce soit fiable parce que de temps en temps, on va payer. Donc, ça implique que la sécurité soit maximale. Donc finalement, pour Apple, c'est une manière de garantir à leurs utilisateurs que quand ils vont se balader dans l'App Store, ils ne rencontreront pas d'applications malveillantes et à chaque fois, ils auront la meilleure qualité possible.
Bon, une fois que vous êtes entré dans le club, vous avez des avantages.
Ouais, il y a pas mal d'avantages et c'est justement ce qui fait la force de l'App Store, c'est qu'ils ont créé des équipes dédiées, c'est-à-dire des équipes qui vont suivre et un peu chouchouter, pouponner tous leurs développeurs. Alors évidemment, ils ne peuvent pas s'occuper des millions de développeurs de l'App Store, mais ils essayent en fait de repérer les meilleurs. Donc ce qu'ils font, c'est que ils mettent plein d'outils à disposition pour tous les développeurs. Ça, c'est disponible en accès gratuit.
Gratuit.
Free, right?
Et après, ce qui se passe, c'est que pour les meilleures applications dans tous les pays, eh bien, en fait, ils les contactent et ils leur proposent des programmes de développement, d'accélération du développement, que ce soit dans leur pays d'origine ou justement à l'étranger. Et on a pas mal d'exemples d'applications développées dans un pays et qui ont explosé à l'autre bout du monde.
Pour ton enquête pour l'Express, Raphaël, tu as notamment parlé avec le créateur de Photoroom. C'est une app de retouche de photos.
On a été accompagné donc par les équipes d'App Store France.
Mathieu Rouif, qu'on vient d'entendre, et son associé ont pu, juste tous les deux, traduire leur app en 30 langues grâce à l'aide des équipes d'App Store.
Ça, c'est des sessions qui nous ont aidés à internationaliser assez rapidement notre produit, notamment je me souviens d'une session sur les spécificités des langues comme le thaï qui va très peu à la ligne, il y a des mots très très longs, donc il faut être particulièrement vigilant sur le design pour cette langue. Ce qui est important parce que le thaï est une de nos principales audiences aujourd'hui.
C'est vrai que là, Mathieu parle du thaï, mais en réalité, la grosse histoire sur Photoroom, c'est leur arrivée au Japon. C'est ce que m'a raconté Mathieu, c'est qu'en fait, ils étaient en train de se développer en France. Ils ont été contactés donc par l'équipe de l'App Store à Paris. Ils avaient de très bons échanges. Et puis, les équipes à Paris se sont dit ça peut peut-être marcher au Japon, parce qu'en fait, les équipes de l'App Store communiquent partout sur la planète et ils essayent un peu de se pousser les meilleures applications en disant voilà, celle-ci, elle est vachement bien, vous devriez regarder. Et la chance de Photoroom, ça a été d'être propulsé au Japon dans l'App Store. Ils ont eu en fait un article au sein de l'App Store qui poussait l'application et ça a été un carton phénoménal et c'est devenu pendant quelques mois, en fait, le premier pays en termes d'utilisation pour Photoroom.
Et aujourd'hui, Mathieu Rouif sait donc parfaitement tout ce qu'il doit à l'App Store.
On est très content de donner 30% des revenus de l'application Photoroom qui est payante. Donc, un abonnement payant. Il y a une version gratuite et une version payante à Apple parce que c'est vraiment des revenus qu'on n'aurait pas sans cela. Ça aurait demandé d'investir, de lever plus d'argent pour pouvoir avoir ces équipes de commerciaux qui seraient allés vendre dans chaque pays. Aujourd'hui, les principaux pays, c'est l'Amérique du Sud, les États-Unis, l'Asie du Sud-Est et Japon. Jamais on aurait pu atteindre ça sans l'aide de l'App Store pour la distribution. On remercie tous les jours l'App Store de nous distribuer dans le monde entier.
Really outstanding.
Vous imaginez bien qu'Apple ne fait pas tout ce travail d'accompagnement uniquement pour recevoir des remerciements chaleureux. La marque à la pomme y trouve aussi bien sûr son intérêt et il n'est pas seulement financier. Raphaël, on l'a entendu, l'App Store, ça rapporte de l'argent à Apple. Ça marche comment ? C'est quoi le principe ?
C'est tout simple. Apple a mis en place un système de commission. C'est-à-dire que quand vous créez votre application dans l'App Store, vous avez le choix entre être gratuit, ce qui est le cas de la majorité des applications, ou de devenir payant. Aujourd'hui, à peu près 15% des applications ont décidé d'être payantes. Et donc, quand vos utilisateurs téléchargent l'application et payent pour votre service, Apple prélève une commission de 30%.
Est-ce que ça représente une source importante de revenus pour Apple ?
Ça, c'est la vraie question. Apple n'a jamais communiqué officiellement sur ce que lui rapportait l'App Store. Ce qui est sûr, c'est que quand vous avez une telle communauté avec un système de commission, ça représente quand même au final pas mal d'argent. Alors, est-ce que c'est quelques centaines de millions de dollars, quelques milliards de dollars ? Ça, on ne le sait pas.
Donc, Apple ne gagne pas forcément beaucoup d'argent comparé à son chiffre d'affaires.
Ça représente pas grand-chose à l'échelle d'un groupe comme Apple qui a un chiffre d'affaires de près de 300 milliards de dollars par an et un bénéfice de 60 milliards de dollars par an. En revanche, Apple communique sur ce que l'App Store apporte à l'économie et là-dessus, ça paraît assez vertigineux. Alors, ça reste des chiffres communiqués par un cabinet qui a été mandaté par Apple, mais on parle pour l'économie réelle, sur une année, je prends 2020, on parle de plus de 600 milliards de dollars de revenus générés dans l'économie réelle grâce à l'App Store.
Ok, donc ça rapporte des revenus, de la bonne com, mais pourquoi Apple fait-il autant d'efforts pour avoir le meilleur catalogue d'applications ?
C'est tout bête, Xavier. C'est en fait pour nous maintenir dans leur écosystème, pour faire en sorte que toi comme moi, on utilise des iPhones, des tablettes, des iWatch, qu'on les achète.
If you don't have an iPhone, you don't have the App Store. So you don't have the world's largest selection of apps.
C'est-à-dire qu'ils nous offrent un univers qui leur est propre et qui nous pousse sans cesse à consommer des produits Apple, à rester dans l'environnement. C'est d'ailleurs en fait une bataille que se livrent les géants de la tech, parce que Facebook fait la même chose quand ils ont Instagram, WhatsApp, Messenger. Leur but, c'est de nous garder dans leur écosystème. Et c'est également le cas avec Amazon ou Google, qui sont aussi des géants de l'audience. C'est un peu cette bataille de l'attention.
Ah oui, il faut avoir le plus d'attention possible pour générer le plus d'argent.
Exactement. Pour Apple, plus on utilise finalement l'App Store et les applications, plus on est des consommateurs de produits d'Apple, plus on va être incité à racheter le dernier iPhone parce que l'application sera plus efficace, plus belle, l'écran sera plus large. Donc, ça sera plus intéressant peut-être de jouer à des jeux vidéo. Et c'est pareil pour les tablettes, pour les iWatch. C'est-à-dire que ils nous gardent dans leur environnement. Le jour où ils perdent notre attention, finalement, ils auront moins de pouvoir sur notre capacité à acheter des produits d'Apple, parce que là, ils nous livrent des services. Mais in fine, le but d'Apple, c'est quand même qu'on ait tous dans nos poches, toi comme moi, un iPhone ou une tablette.
Ça, c'est différent des autres géants de la tech, parce que tu comparais avec Facebook ou Amazon. Eux, ils ne vendent pas leurs propres produits physiques.
Alors effectivement, Facebook, ça va plus être un modèle où ils vont vendre de l'audience à des entreprises qui vont pousser des publicités. Côté Google, c'est un peu le même modèle, c'est-à-dire qu'ils veulent le plus de trafic possible et qu'on utilise le plus possible le moteur de recherche pour derrière dire on a tant de trafic, donc en fait si vous payez tel ou tel prix pour une publicité, vous aurez une exposition suffisante. Puis après il y a le modèle d'Amazon qui lui est la plus grosse marketplace mondiale, et eux, leur but c'est de devenir incontournable quand on pense à acheter notre tondeuse, même une paire de skis, absolument tout et n'importe quoi.
C'est-à-dire qu'il y a une guerre de l'attention entre tous ces géants de la tech, mais leur but final n'est pas tout à fait le même.
Exactement. C'est-à-dire que ce qu'ils veulent, c'est nous garder le plus possible dans leur environnement, mais avec des outils et on va dire des armes qui leur sont propres. Apple, c'est entre autres l'App Store.
Merci Raphaël, on peut retrouver tous tes articles sur l'économie et la tech sur le site de L'Express. Vous êtes sûrement en train de voir que cet épisode touche à sa fin sur votre app de podcast. Il est donc temps de nous mettre des étoiles s'il vous a plu et de vous abonner sur Deezer, Spotify ou Apple Podcast. Cet épisode a été fabriqué avec Louis Coutel, Margot Lanuzel, Mathias Pengili et Lison Verrier. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.
Thank you for coming and we'll see you soon.